sur mon verre de saké. Elle me sourit trop blanc pour être gratuite. L'amour propre t'offre aussi sa part de saleté. Recherche des tulipes dans des tas de fuites. Les cuisses de la vie me tiennent à l'intérieur.
RFI, bonjour, 17h en temps universel, bonsoir, 18h ici à Paris.
Nicolas Brousse.
La Cour suprême américaine met en colère Donald Trump, peu habitué à voir ses décisions remises en cause, surtout qu'il a fait de la hausse unilatérale des droits de douane un marqueur de son second mandat. Hausse déclarée illégale, le président américain réplique, annonce déjà de nouvelles surtaxes douanières, non plus de 10 mais de 15%. Le Hezbollah appelle à la résistance après de nouvelles frappes israéliennes meurtrières dans l'est du Liban hier. Nous serons en ligne avec Beyrouth. Les journalistes aiment à le présenter comme la plus grande ferme de France. Le Salon international de l'agriculture a ouvert ses portes à Paris aujourd'hui, inauguré par Emmanuel Macron, qui en a profité pour recevoir des délégations syndicales agricoles dans un contexte tendu. La décision est américaine, mais son retentissement est mondial. La Cour suprême, dont la majorité des juges sont plutôt dans le camp présidentiel, a retoqué hier les droits de douane annoncés unilatéralement il y a un an par Donald Trump. Le président américain voulait ainsi réduire le déficit commercial et augmenter les recettes fiscales. Sauf que ce n'était pas une nécessité d'urgence économique. En conséquence, c'est le Congrès et lui seul qui était en mesure de prendre cette décision, estiment 6 des 9 juges de la Cour suprême. Ce désaveu est un soulagement pour les partenaires commerciaux des États-Unis, même si Donald Trump a déjà promis une nouvelle taxe mondiale d'abord de 10% et finalement il vient de l'annoncer, ce sera plutôt 15%. Malgré tout, en Inde, on s'en satisfait. Correspondance d'Abdoulaye Rali.
Cette annonce de Donald Trump brouille une diplomatie économique déjà complexe. Elle survient au moment précis où New Delhi et les États-Unis finalisent un accord commercial majeur. Le calendrier est d'autant plus embarrassant que vendredi, le président américain a présenté ce futur traité comme un triomphe personnel. Selon lui, l'Amérique ne paierait plus de droits de douane à l'Inde. Par contre, New Delhi doit s'acquitter de cette taxe. Entre-temps, dans les milieux industriels indiens, la satisfaction domine. Pour le Conseil de promotion des exportation de vêtements, le tarif mondial de 10% représente une aubaine. Il réduit presque de moitié les droits de douane actuels. Les États-Unis demeurent un marché vital pour l'Inde. L'an dernier, les exportations ont atteint le record de 86 milliards de dollars, de l'électronique au diamant, en passant par la pharmacie. Plus de 7000 produits indiens y sont écoulés. Abdullah Eradi, New Delhi, RFI.
Satisfaction prudente à New Delhi, mais comme ailleurs, elle pourrait être de courte durée, car outre l'annonce d'une nouvelle taxe, qui n'est peut-être pas la dernière, il y a encore aussi beaucoup trop de flou sur un éventuel remboursement des droits de douane déjà collectés. Or, le commerce mondial n'aime rien moins que l'incertitude, explique Julien Marcilly, chef économiste du cabinet de conseil aux États Global Sovereign Advisory.
Ça veut dire sans doute une recrudescence de l'incertitude au niveau mondial, un peu à l'image de ce qu'on avait connu en début d'année dernière, quand on n'y voyait pas très clair sur les perspectives en matière de droits de douane. Donc ça, c'est la première chose. Et l'incertitude n'est jamais un facteur favorable à la fois pour le commerce et pour l'investissement. Donc à court terme, en théorie, ça voudrait dire que ces droits de douane supplémentaires sont annulés. Ce qui pourrait d'ailleurs occasionner des effets d'arbitrage, avec peut-être aussi des entreprises qui, en quelque sorte, pourraient se dépêcher dans les semaines à venir d'exporter un peu plus vers les États-Unis, tant que ces droits de douane sont annulés, et en anticipation, peut-être que l'administration américaine en prenne de nouveau via d'autres dispositions réglementaires ou législatives. C'est de nature aussi à ajouter de la volatilité sur le commerce mondial.
Propos recueillis par Charlotte Cosset, et pour en savoir encore plus sur cette décision de la Cour suprême américaine et ses conséquences, un dossier vous attend sur RFI.fr. Au Liban, au moins 12 personnes tuées, une trentaine d'autres blessées dans des bombardements israéliens qui ont visé vendredi soir la plaine orientale de la Beka et quelques heures plus tôt le camp palestinien d'Aïn Elouée à 45 km au sud de Beyrouth. Parmi les victimes figurent un haut responsable du Hezbollah, deux membres du Hamas, mais aussi des femmes et des enfants selon les médias libanais. Ce samedi, le Hezbollah appelle à la résistance après ces frappes d'une intensité qui dépasse tous les niveaux précédents selon le groupe armé. Confirmation avec à Beyrouth de Paul Ralifé.
La presse libanaise parle ce samedi matin d'un massacre en raison du nombre de victimes, un des bilans les plus élevés depuis le cessez-le-feu conclu il y a 15 mois. 6 frappes ont visé 4 localités au nord et au centre de la plaine orientale de la Beka. L'Agence nationale d'information officielle rapporte que les raids ont été menés par des drones. Le quotidien israélien Ma'ariv affirme que des missiles mer-sol ont été tirés par des vedettes à partir de la Méditerranée. Dans le camp d'Ain el-Helwi, le plus peuplé du Liban, les raids ont visé un bâtiment de la force conjointe chargée de la sécurité des camps. Le Hamas a annoncé la mort de deux de ses membres. Les frappes israéliennes au Liban sont fréquentes, mais leur intensité vendredi a surpris les observateurs. Les médias libanais font un rapprochement entre la montée des menaces américaines contre l'Iran, qui coïncide avec l'entrée du porte-avions Gerald Ford en Méditerranée, et l'étalage de forces israéliennes. L'État hébreu veut montrer à ses ennemis qu'il est capable de frapper par air et par mer, même les régions les plus reculées, sans l'aide de ses alliés. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Au Nigeria, au moins 38 habitants d'un village de l'état de Zamfara ont été tués par des hommes armés dans la nuit de jeudi à vendredi. Cette action a lieu le lendemain d'attaques de 7 villages dans l'état voisin de Kebbi, lancées par le groupe djihadiste Lakourawa. Afrique Soir, première édition à 18h30, temps universel. Bientôt 4 ans de guerre quotidienne en Ukraine ce samedi, tandis que Kiev assure que ses forces ont réussi à attaquer une usine de missiles à l'est de Moscou, soit à 1400 km de l'Ukraine. La Russie annonce la prise du village de Karpivka dans la région de Donetsk, dans l'est ukrainien. Ce conflit est aussi une guerre de l'image qui peut passer par l'équipement. Avec près d'1 million de soldats actifs, le marché des habits militaires est en forte croissance, car si les forces armées ukrainiennes fournissent bien un uniforme, chaque soldat peut acheter des équipements ou des vêtements de meilleure qualité s'il le souhaite, et ce pour plusieurs raisons. Reportage à Zaporijja de Théo Renaudon.
Dans cette boutique, à 15 km du front, des dizaines de soldats passent tous les jours. Ils sont en partance ou reviennent des combats, comme Dima qui ressort avec 2 pantalons de camouflage flambant neuf.
Not having the amount of equipment that we need.
Ce n'est pas que nous manquons d'équipement, ce n'est pas ça le problème. En fait, la seule vraie raison, c'est qu'on veut avoir fière allure. On respecte le travail que l'on fait. On achète de l'équipement pour nous parce qu'on veut être beau.
For ourselves, just because we want to look good.
Mais parfois, l'esthétique n'est pas la seule raison de ces achats. Pour Diana, l'uniforme conventionnel n'est adapté qu'aux hommes.
Ça se remarque particulièrement dans l'habillement de combat. Le gilet pare-balles, par exemple. Pour les femmes qui ont une forte poitrine, ce n'est pas adapté. Il existe ici des plaques spéciales et des porte-plaques féminins, mais ça n'est pas du tout courant dans l'équipement régulier des forces armées.
Des gilets pare-balles qui peuvent parfois coûter plusieurs milliers d'euros. Théo Renaudon, Zaporijja, RFI.
En France, inauguration présidentielle ce matin du Salon international de l'agriculture, 62e édition, sans star, ni vache, ni veau pour cause de risque épidémique. Mais ce salon espère rester une vitrine très populaire du monde agricole. Et pas seulement français, cette année, la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur. Emmanuel Macron visite donc depuis ce matin les stands, comme à son habitude, avec l'espoir d'apaiser les tensions avec des agriculteurs particulièrement remontés. Valérie Gasse et Benoît Gouthorbe ont suivi cette visite, qui pour l'instant se passe sans encombre.
Ce n'est pas tout à fait un salon comme les autres et Emmanuel Macron l'a regretté dès son arrivée.
Il n'y a pas de bovin, c'est un choix qui a été fait, nous le respectons. Mais je veux ici dire que peut se féliciter d'être en train de gagner quand même le combat durablement contre la dermatose.
L'égérie de cette année biguine une vache martiniquaise. Emmanuel Macron n'en a vu qu'un hologramme sur un écran dans un hall presque vide. Pas de vache, mais une petite brebis. Dans le pavillon des Outre-mer où a débuté la déambulation au stand Mayotte.
Le miel, la vanille.
Des échanges plutôt bon enfant avec le chef de l'État autour duquel, il est vrai, peu de visiteurs pouvaient approcher, car cette visite intervient alors que les agriculteurs sont en colère. Quelques-uns étaient d'ailleurs à proximité pour essayer d'interpeller Emmanuel Macron, mais ont été repoussés calmement par le service d'ordre. Le chef de l'État a rencontré ceux qui voulaient le voir. Coordination rurale, jeunes agriculteurs et FNSEA, dont le président Arnaud Rousseau a rappelé ses attentes sur la loi d'urgence agricole.
Ça s'appelle une loi d'urgence, ça peut pas être au calendrier grec.
Emmanuel Macron a écouté et fait passer son message.
Tout le monde doit être derrière la ferme française. C'est pas un moment de division, le salon. C'est un moment où on montre cette France qu'on aime.
Un petit voyage en France qu'Emmanuel Macron espère paisible jusqu'à la fin de la journée. Valérie Gasse, Benoît Gouthorbe, au Salon de l'agriculture.
Le chef de l'État qui avait appelé tout le monde au calme et semble avoir été entendu, en tout cas pour l'instant, à Lyon. 3200 participants à la marche en hommage au jeune militant d'extrême droite Quentin Derenque, battu à mort par des membres de l'ultra-gauche. À Paris, manifestation ce même jour de plusieurs centaines de personnes. une nouvelle fois pour réclamer justice plus d'un mois après le décès d'Elhassen Diarra, un Mauritanien de 35 ans mort dans la nuit du 15 au 16 janvier pendant sa garde à vue. Il avait auparavant été interpellé au pied de son foyer de travailleurs, interpellation a priori plutôt extrêmement musclée. Vous écoutez RFI, merci. Tout de suite, on parle géopolitique.
Radio, je sais pas moi.
La radio? Pourquoi écouter la radio? Prêt, Harry?
Principe actif, le mix des cultures.
Principe actif, le mix des cultures.
Get out to a dollar, yes. rock. Rock, won't you hide on that day? Run to the rock. Rock, won't you hide me? Sits in a man, a rocker be a man. Hold on that day. Lord sits in a man, a rocker be a man. Hold on that day. I run to the sea. See, won't you hide me? Hold on that day. Won't you hide me? All on that day. Lord's in sin.
HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure. Remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, 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 on lâche rien.
Un peu d'air ne me fera pas de mal. Planter mes pieds en éventail. La vie en bleu dont tu parlais. La vie en rose comme un banc de sable. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air ne me fera pas de mal. Et le fil jusqu'aux étoiles.
La vie en bleu comme un chameau.
La vie en rose comme tes trouvailles. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air.
Fragile et écrasé, j'suis comme un œuf dans la mêlée. Qu'aurait bronzé comme un journal. J'ai comme la lune un visage pâle.
Un petit peu d'air ne me fera pas de mal. Tourner les murs, lever les voiles.
La vie en bleu comme un bateau. Carnaval, carnaval.
Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air ne fera pas de mal. Sortir ma tête de tous ces poils. La vie en bleu comme un tableau. La vie en rose comme mes sandales. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air ne fera pas de mal. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air ne fera pas de mal. Un petit peu d'air.
Écoute, je vais te dire un truc, Jérôme. Il y a une expression américaine en anglais qui dit « Rock and roll is dead ». Ce qui veut dire « Le rock and roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Tu comprends ?
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.